Jacques Sauvageot, vous êtes le directeur de l'école des Beaux-Arts de Rennes depuis plusieurs années. Récemment, Rennes a été l'hôte d'une manifestation de chaîne nationale. Notre école a accueilli les assises des écoles des Beaux-Arts. Pouvez-vous expliquer les enjeux de cet événement et en quoi il consistait ?
L'enjeu des assises, c'était d'avancer dans la reconnaissance des écoles d'art comme établissement d'enseignement supérieur. Les écoles d'art ont beaucoup évolué depuis 50 ans. Elles dépendent du ministère de la Culture, mais elles donnent un enseignement supérieur qui n'est pas forcément reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Et l'enjeu, c'était d'essayer d'obtenir cette reconnaissance officielle qui est posée aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'harmonisation européenne des enseignements supérieurs. Alors, je ne sais pas comment dire, c'est ce qu'on appelle nous le système LMD, LMADO, licence, maîtrise, doctorat, tous les établissements, les enseignements de tous les établissements doivent pouvoir se situer quelque part sur cette grille d'enseignement de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans. Donc c'était, on va dire, l'enjeu principal des assises.
Est-ce qu'on a proposé des réformes pendant ces assises ? Est-ce qu'il y a concrètement des propositions de fait, des changements prévus ?
Alors, les assises ont discuté principalement autour de trois thèmes. Le premier, c'est le statut des enseignements. Le deuxième, c'est l'art et la recherche. Et le troisième, les réseaux. Alors, le statut des enseignements, c'est essayer d'arriver à une reconnaissance des diplômes, à une reconnaissance du statut des enseignants comme enseignants du supérieur, et à une reconnaissance du statut des établissements comme établissements d'enseignement supérieur, leur permettant de délivrer des diplômes. Nos diplômes, à l'heure actuelle, sont délivrés par le ministère. Et l'idée, c'est d'arriver, disons, à fonctionner un peu comme les autres établissements d'enseignement supérieur. Alors, les assises ont permis d'avancer, la préparation des assises a permis d'avancer sur ces différents dossiers. On peut se dire qu'on devrait réussir assez prochainement à avoir le grade master, la reconnaissance du grade master pour notre diplôme de fin d'études, que le statut des enseignants devrait pouvoir évoluer aussi dans une période assez rapide et que les établissements ont essayé de trouver un statut qui leur donne autonomie. Ça, c'est sur le statut. La recherche ?
L'art et la recherche.
La question qui est posée, tous les établissements d'enseignement supérieur sont fondés sur le fait que l'enseignement est lié à la recherche. La recherche dans l'enseignement supérieur, c'est la publication de doctorat. Dans les écoles d'art, on donne un enseignement de l'art par l'art. Est-ce que l'art est de la recherche ? Pour nous, l'art est de la recherche. Mais encore faut-il que ce soit reconnu. Et donc, on a essayé de voir quels sont tous les arguments qu'on pouvait avancer pour faire reconnaître que l'art était de la recherche, d'une part, et d'autre part, pour développer aussi une possibilité peut-être d'enseignement, de formation ou d'activité de troisième cycle après les diplômes. Donc ça a été les questions principales autour de la recherche. Le troisième thème, c'était celui des réseaux. L'idée, c'est de dire une école ne peut pas vivre toute seule, isolée, coupée des autres écoles, avec peu de rapport avec les centres d'art, peu de rapport avec l'université. L'idée, c'est de dire comment les écoles peuvent s'intégrer à la fois dans un réseau d'écoles, dans un réseau de partenariat avec les autres enseignements supérieurs et dans un réseau lié à la production d'art, hein, c'est-à-dire, on va dire, ce qu'on va appeler centre d'art sur le plan générique. Alors une école s'inscrit d'abord dans un réseau avec d'autres écoles d'art, hein, parce que une école toute seule, ça représente quelque chose de pas très grand. Sitôt qu'on s'éloigne un peu, ça devient tout petit. Hein, et donc l'idée, c'est à un niveau régional ou interrégional de constituer des réseaux d'écoles. Alors nous en Bretagne, nous sommes un peu avancés là-dessus, puisque ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler au niveau de la constitution d'un réseau des écoles de Bretagne. Ça peut avoir aussi des incidences financières dans la mesure où les régions qui à l'heure actuelle ne participent pas au financement des écoles pourraient participer au financement des écoles. Alors sur ce plan, nous sommes avec le ministère de la Culture, avec la région, en train de signer un protocole d'expérimentation pour la mise en réseau des écoles de Bretagne. Sur le plan des rapports avec les centres d'art et avec l'université, les choses sont, on va dire, un petit peu plus compliquées. Ils pensent que les centres d'art, comme les universités, pensent que ce qui se fait dans les écoles est intéressant, mais ils ont du mal à reconnaître l'importance que peut fonctionner avec eux, on va dire, sur un pied d'égalité. Hein, ils ont tendance à nous utiliser pour ce qu'on peut leur apporter, hein, mais pas véritablement à prendre en compte le fait qu'il se fait véritablement quelque chose d'intéressant dans les écoles d'art et à partir des écoles d'art. Alors là, c'est un travail de longue haleine.
Et à propos du réseau qui est entre les quatre écoles de Bretagne, comment ça fonctionne, les liens entre les écoles? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des...
Alors le réseau repose, on va dire, au départ sur le fait qu'il y a un examen d'entrée commun, hein, que les étudiants peuvent se présenter aux quatre écoles en même temps, et qu'ils choisissent l'école dans laquelle ils veulent aller. Ensuite, on a un principe de libre circulation entre les écoles. Théoriquement, un étudiant peut quitter une école pour aller dans une autre école et être admis automatiquement. Le troisième point, c'est de dire que ça offre, disons, un ensemble de formations plus large que ce qu'une école peut proposer. Les quatre écoles ensemble, hein, donc, offrent plus de choix de formation. Et puis, quatrième point, il y a effectivement une série de choses qui sont faites en commun, des voyages en commun, des expositions communes, des ateliers communes, des ateliers communs. On a fait par exemple cette année un atelier dans le domaine du film court, on a fait un atelier autour d'édition en sérigraphie, on a fait des ateliers communs autour de la scénographie, on a fait un atelier commun autour de la narration vidéo. Il y a comme ça toute une série d'ateliers qui sont communs entre les écoles, avec au moins, on va dire, des enseignants de différentes écoles et des étudiants de différentes écoles.
Est-ce que vous pensez que ces échanges, ce réseau d'écoles peut être élargi au niveau national, voire européen?
Il faudrait que ce soit élargi au niveau européen. Un des enjeux, justement, des réseaux d'écoles, c'est d'avoir plus facilement de correspondance avec d'autres réseaux, d'autres établissements européens. Donc, dans un premier temps, on se regroupe entre l'école française d'une région, mais pour essayer d'aller ailleurs, pour essayer de faciliter les rapports qu'on peut avoir ailleurs.
De faciliter les échanges entre étudiants.
Voilà, de faciliter les échanges, qui fait qu'un étudiant russe peut avoir envie de venir en Bretagne pour être accueilli dans une des quatre écoles.
Chaque école garderait chaque groupement d'écoles garderait ses spécificités qui...
Chaque école reste indépendante, gérée de façon indépendante, mais il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être des activités communes. C'est-à-dire qu'on peut, on va publier un livret d'étudiants commun aux quatre écoles. On a une brochure de présentation commune pour les quatre écoles. De temps en temps, on organise des voyages qui sont communs aux étudiants des quatre écoles. Hein, il y a donc toutes ces... cette partie d'activité qui peut être mise en commun, mais qui laisse à chaque établissement la liberté de ses choix et de son orientation.
Après, au niveau européen, qu'est-ce que vous pensez du système éducatif qui a lieu en Allemagne, en Italie, en Espagne? Est-ce que vous trouvez des équivalences entre leur système et notre système français? Est-ce que les passerelles sont possibles dès maintenant ou il y a un travail d'harmonisation à faire par an?
J'ai tendance à dire que les systèmes sont apparemment très différents, en réalité souvent assez proches les uns des autres sur le fond. Dans la mesure où nos enseignements sont très liés à ce qu'est l'art contemporain et ce qu'on appelle aujourd'hui, l'art contemporain, c'est un art non seulement européen, mais même mondial. Donc, quelque part, les références, les modèles sont un peu communs à tout le monde. C'est partout des enseignements qui sont fondés sur des engagements très personnels des étudiants, une ouverture sur des formes d'expression qui peuvent être très différentes. Alors bien sûr, après, il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences qui vont jouer sur le fait que certains établissements sont plus ouverts que d'autres aux pratiques contemporaines. Mais je pense, dans le fond, il y a quand même beaucoup de choses communes.
Donc, a priori, il n'y a pas trop de problèmes pour relier ces écoles, que ce soit...
Non, il n'y a pas trop de problèmes.
Des institutions, vous avez
dit. Voilà, je pense qu'il faut, et c'est en ça que le système dit LMD, LIMADO, peut être intéressant, c'est que d'avoir une idée des niveaux auxquels on est susceptible d'accueillir des gens qui viennent d'un autre système d'enseignement. À l'heure actuelle, c'est ça, on va dire, la principale difficulté qu'on a. Parce que nos étudiants très branchés sur l'art contemporain ne sont pas mécontents parfois d'avoir des enseignements plus traditionnels. Des étudiants qui viennent d'autres pays où l'enseignement est plus traditionnel peuvent apprécier d'avoir un enseignement plus ouvert sur l'art contemporain. Donc, il faut se dire que ce brassage, ce mélange, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est de se dire, mais quelqu'un arrive de tel pays, à quel niveau il peut trouver sa place dans notre système?
Et dans l'école de Rennes, qu'est-ce que vous pensez de l'équilibre entre enseignement traditionnel et art contemporain? Est-ce que vous pensez que, que les étudiants reçoivent correctement cet échange?
Je crois que à Rennes, comme dans beaucoup d'écoles d'art aujourd'hui, on a surtout un problème pour articuler les enseignements théoriques et les enseignements pratiques. On va dire la part conceptuelle et la part technique. Depuis un moment, pendant des années, l'accent a été mis, on va dire principalement sur ce qu'on appelle la démarche. Et peu importait la prise en compte des moyens par lesquels se produisait cette démarche. Je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est à un moment où, quelque part, il faudrait peut-être retrouver un lien ou des racines avec, on va dire, tout ce que sont les conditions de mise en œuvre pratique. Alors, c'est très lié aussi à ce qu'a été l'art contemporain. C'est-à-dire que on observe aujourd'hui partout, dans tous les domaines de l'art, une importance très grande de la mise en œuvre, de la mise en forme, dans tous les domaines. Alors, on va dire, dans des domaines traditionnels comme la peinture, où on parle d'un retour à la peinture, depuis un moment, on voit bien qu'il y a un nouveau regard sur la peinture, mais que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, on s'aperçoit aujourd'hui que les artistes contemporains, d'ailleurs, qui marchent bien, sont des artistes qui savent très bien manipuler les outils. Et donc il y a ce rééquilibrage, je pense, qui est nécessaire.
Comment est-ce qu'on pourrait renforcer ces enseignements techniques? En rajoutant des cours, en ayant plus de moyens, en faisant intervenir des professeurs dans les ateliers plutôt que des moniteurs? Les moniteurs sont des étudiants de la 4e, 5e année qui encadrent les ateliers, donc ils ne trouvent pas forcément le savoir d'un professionnel.
Ou, les solutions sont multiples. C'est-à-dire, d'une part, il faut que dans les écoles d'art, on ait un certain nombre de techniciens qui sont, on va dire, de bons techniciens dans ce domaine-là, dans les domaines qui peuvent nous intéresser, on va dire. C'est la photo, la vidéo, c'est l'informatique, c'est la gravure, mais quelque part ça peut être aussi la peinture, et là on voit bien que ça suppose aussi sans doute un changement d'attitude des enseignants. Un changement d'attitude aussi des étudiants, parce que il y a les étudiants voudraient bien peut-être savoir la technique sans forcément avoir à l'apprendre. Donc il faut que là-dessus tout le monde change un peu son regard, et que les enseignants se disent que quelque part, ils ont effectivement. effectivement un regard technique, il faut avoir un regard technique professionnel à avoir sur les choses. Donc il faut vraiment qu'on ait
un équilibre entre l'idée et...
Voilà, hein, qui est cet équilibre et qui est, disons, un peu ce changement de regard ou d'attitude de tout le monde. Il fut un temps où, dans une école, tant que vous n'aviez pas de professeur photo, on avait de la photo. Il y avait des gens qui faisaient de la photo. Puis à partir du moment où les professeurs, ils ont dit, oui, mais là, on n'est pas là pour discuter de technique photo. Hein. Et je prends l'exemple de la photo, on pourrait dire la même chose, de la vidéo, ou ainsi de suite, hein, ou de la gravure, ou... parce que faut dire aussi qu'on était une période où on pensait que ce qui était très important, c'était la transversalité. Alors, la transversalité, hein, on va dire, c'est le mélange de différents domaines. Mais on voit bien aussi quel risque il peut y avoir quand on parle de transversalité. C'est de dire que on ne fait pas forcément tout bien, mais on risque aussi de faire tout pas très bien. Hein, et en même temps, sans qu'on puisse véritablement être jugé, puisque par définition, on n'est dans aucun domaine. Propre hein, aux arts plastiques, la transversalité, on la retrouve dans tous les domaines. Hein, vous regardez, si vous vous intéressez à la danse ou au théâtre, il y a des tas de fois où c'est pas bien si on est dans le domaine du théâtre ou si on est dans le domaine de la danse. Ben, je suis frappé par le fait que récemment, j'entendais par exemple des danseurs qui commençaient à critiquer un peu cette notion de transversalité, c'est-à-dire peut-être des excès de la transversalité. Hein, qui faisait que ben, chacun était arrivé à un moment où, quelque part, il n'avait plus de personnalité, plus de repères.
Donc globalement, que ce soit dans les arts plastiques ou les arts en général, il y a une sorte de retour vers une technique, vers une maîtrise de l'outil, vers ces repères
qu'on a. Vous savez, voilà, l'histoire fonctionne toujours un peu comme un balancier, hein, c'est-à-dire ça se déplace. Bon. Hein, bon, on se dit qu'il faut mettre l'accent sur quelque chose, et alors tout a tendance à aller de ce côté-là. Bon. Hein, on peut se dire qu'aujourd'hui, ben, effectivement, on a un moment où on se dit que les données techniques, les données professionnelles ont une importance. Mais on le voit bien, c'est une demande de nos étudiants. C'est une demande, on va dire, c'est une demande nouvelle de nos étudiants. Hein, il y a quelques années, on leur aurait parlé de ça, ils auraient dit que ce qui était important, c'était la liberté, c'était de ne pas se trouver contraint, et ainsi de suite. Bon. Et ben, aujourd'hui, les étudiants, bon, ils font un peu une demande, qui est une demande contraire, hein, en disant, mais on veut apprendre hein, des choses, on veut pouvoir faire quelque chose avec ce qu'on a appris, qui est une nouvelle. On suit l'évolution de la vie, on suit l'évolution de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, mais... Pas toujours ça.
À l'école des Beaux-Arts de Rennes, on a une grande part laissée à l'expérimentation et à la pratique. Il y a, dans les ateliers, les élèves expérimentent beaucoup, ils apprennent de façon plus ou moins autonome à servir des outils. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser cette grande liberté d'expérimentation aux élèves, ou peut-être la renforcer avec un plus de cours théoriques. Par exemple, en Belgique, il y a des cours dans les écoles d'art, on a des cours de sociologie et d'ethnologie qui peuvent nourrir la réflexion artistique. Est-ce que ça pourrait être envisageable dans les écoles des Beaux-Arts?
Ça peut être envisageable, ça peut être nécessaire, peut-être pas forcément sous la forme de cours. C'est là qu'il faut peut-être trouver les procédures qui permettent d'aborder ces disciplines qui sont dites théoriques, qui sont en réalité simplement une autre façon de regarder les choses que, on va dire, la façon plus traditionnelle de la critique d'art ou de l'histoire de l'art. C'est théoriquement un secteur qu'on appelle culture spécifique dans les écoles. Hein, c'est-à-dire qui fait que, en fonction de ce que chaque étudiant va développer, ben, il faut qu'il nourrisse son travail. Hein, il faut qu'il nourrisse son travail d'abord qui sont extérieurs et qui peuvent être en rapport avec des disciplines qui sont des disciplines extrêmement différentes. Mais c'est une question que Rosenberg aborde dans la définition de l'œuvre d'art. Hein, et en se disant que, effectivement, à travers un bon enseignement, c'est celui qui réussit à mélanger toutes les disciplines et les approches. Alors, tout en se disant que nous avons affaire à des gens quand même qui sont principalement des praticiens. Hein, et donc il faut là-dessus quand même faire attention à ne pas surcharger les choses de connaissances qui seraient des connaissances où on ne verrait pas forcément bien le rapport avec la pratique qu'on peut avoir. Mais quelque part, avoir une ouverture est quelque chose d'indispensable. L'opposition entre ceux qui font et ceux qui pensent, ce n'est pas une... dans la société, de façon générale aujourd'hui, une position qui est remise en question. Hein, il n'y a pas d'un côté ceux qui font et ceux qui pensent. Bon. Mais d'un autre côté, bon, il n'y a pas non plus l'idée de dire qu'on réussira à développer une pratique artistique par le biais d'une accumulation de savoir, hein, et notamment de savoir théorique, dit théorique.
Donc peut-être par l'intermédiaire d'ateliers, de workshops en invitant des artistes.
Alors c'est là où les ateliers avec l'invitation d'artistes, alors parce que par exemple, effectivement, quand on parle d'invitation d'artistes, ce qui est intéressant, c'est que chaque artiste a un mode de fonctionnement particulier. Hein, il s'appuie sur des références, sur des connaissances qui sont particulières, mais que lui, il a réussi à transformer en matériaux artistiques. Et sous cet angle-là, c'est effectivement beaucoup plus intéressant que si on fait appel simplement, on va dire, à un spécialiste d'un enseignement dans un domaine particulier. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant, mais ça ne peut pas être que ça. D'où l'importance, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des réseaux, du rapport avec les centres d'art, ainsi de suite, bon, hein, et qui permettent d'avoir des approches qui sont en rapport avec des productions.
L'École des Beaux-Arts de Rennes forme avant tout des plasticiens, des designers, enfin des créateurs dans le domaine de l'art. Est-ce que vous pensez que c'est une école qui peut aussi former des critiques, des commissaires d'expo, ou qu'il y a d'autres institutions qui sont plus spécialisées? Et qu'est-ce que ces deux formations peuvent avoir de commun ou d'échanger entre elles? Qu'est-ce qui est nécessaire à ces professionnels, qu'ils soient créateurs ou...
Une école des Beaux-Arts, comme l'école des Beaux-Arts de Rennes, comme toutes les écoles des Beaux-Arts, a normalement plutôt pour fonction de former des praticiens. On va dire former des artistes au sens large, des praticiens. Bon. Ce sur quoi, quand on regarde ce que deviennent nos étudiants, un certain nombre sont finalement plutôt dans les domaines qui sont autour de la pratique, que dans le domaine de la pratique proprement dite. Alors par exemple, certains sont médiateurs, organisateurs d'expositions ou gèrent des centres d'art. Alors, ils ont un atout pour ça, qui est lié y compris à la formation qu'ils ont eue, plutôt d'artistes, parce qu'ils ont une familiarité, une proximité avec les artistes, que quelqu'un qui aurait une formation on va dire plus critique, n'a pas. Donc, ça ne veut pas dire que l'une s'oppose à l'autre, c'est simplement deux démarches qui sont deux démarches différentes et qui peuvent très bien se compléter l'une avec l'autre. Ce sur quoi, ce qui est important, c'est quand même qu'on se dise que le noyau de nos écoles est la formation d'artistes. Ça, je crois que c'est important de garder cette idée-là, même si on sait bien que, bon, un certain nombre ne seront pas d'artistes, ne seront pas artistes, ils auront des activités qui tournent autour de ce domaine-là. Mais, c'est ce que je disais, disons, ces activités pourront d'autant mieux les développer qu'ils seront, on va dire, dans ce rapport, on va dire, immédiat, direct avec la pratique de l'art.
Et sinon, concrètement, quelles sont les matières que les artistes, que les commissaires d'expo, que les critiques futurs professionnels peuvent avoir en commun, quels enseignements sont nécessaires pour former ces professionnels?
On va dire que c'est tout ce qui tourne autour de l'histoire de l'art, notamment de l'histoire de l'art contemporain, est, on va dire, dans un sens assez général, de la philosophie de l'art. Alors, il faut comprendre la philosophie dans un sens assez général, hein, qui peut appliquer la sociologie, qui peut, enfin, on va dire, tout ce qui a un peu un regard, une réflexion sur l'art. Forcément aussi quelque chose autour de la médiation, de la mise en espace, parce que toutes les formes d'expression artistique reposent bien sur le fait que, à un moment ou à un autre, elles trouvent place dans un lieu, elles trouvent place dans un espace. Donc voilà ce que peut être la formation commune.
Donc très artistique, enfin, de toute façon très artistique. Après, peut-être des formations plus, pas techniques, mais liées plus aux échanges de communication, de marketing. Enfin. Est-ce que ça rentrerait dans le champ d'une école d'art, cette matière-là, ou c'est à apprendre par soi-même ou par ailleurs?
Écoutez, l'idée qu'on a à l'heure actuelle, c'est de développer cet aspect plutôt par complémentarité. On envisage ça effectivement dans le cadre, on va dire, d'un éventuel centre de recherche qu'on développerait après le diplôme et qui pourrait permettre d'articuler, on va dire, une pratique de l'art avec quelque chose qui tourne autour de la médiation, de l'exposition, et en se disant que ça serait bien de travailler de façon complémentaire avec des gens dont l'objectif est principalement alors de porter, on va dire, la gestion ou la communication de projet. Mais on se dit que pour nous artistes, l'aspect principal est quand même la pratique. Alors, qu'on ait une certaine sensibilité à ces autres aspects, c'est quelque chose qui est important, et c'est là où on peut dire que le travail avec d'autres peut permettre de développer cette sensibilité. Notre objectif n'est pas de se spécialiser là-dedans, mais d'avoir, disons, au moins un peu ce minimum d'approche.
Est-ce que vous pensez qu'un étudiant qui détient le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui s'obtient à 5 ans au Beaux-Arts, est prêt à avoir une activité artistique, est prêt à être autonome dans son travail? Est-ce qu'il a suffisamment de...
Il peut être un très jeune artiste.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, un très jeune artiste, c'est un artiste qui doit mûrir. Hein, c'est-à-dire que... bon, aujourd'hui, on n'est plus il y a 100 ans. Il y a 100 ans, un artiste de 25 ou 30 ans commençait à ne plus être un jeune artiste. Aujourd'hui, à 25 ans, on est encore très jeune, sur tous les plans, et sur le plan artistique aussi. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on discutait de la question de ces enseignements de troisième cycle, hein, à l'occasion des assises des écoles d'art qui se sont tenues. Tous les enseignements aujourd'hui durent plus longtemps que ce qui durait il y a 50 ou 100 ans. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour nos enseignements à nous. Hein, donc c'est vrai que souvent c'est important que les étudiants ayant eu leur diplôme puissent prolonger cette période qui les a conduits au diplôme par quelque chose qui va leur permettre, disons, un peu de mûrir, d'approfondir quelque chose qu'ils ont commencé, souvent qu'ils ont à peine esquissé. Mais dans une situation, il faudrait que ce soit dans une situation qui est beaucoup plus réelle que ce qui se fait avant dans le cadre de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est important de sortir du cadre scolaire, universitaire proprement dit. Alors on peut commencer déjà avant, mais c'est sûr que c'est important après.
Et donc en fait l'école forme des artistes prêts à mûrir, mais qui ont encore une démarche à poursuivre. En
fait, oui, parce que...
De toute façon c'est quelque chose qui se développe.
Je dis que une école d'art, elle enseigne pas l'art, elle enseigne des pratiques artistiques. Bon, être artiste, bon, c'est autre chose que d'avoir un diplôme, de présenter un mémoire, que de faire des travaux dans un cadre scolaire. C'est un engagement de vie, c'est un engagement de société. Bon, et pour ça, il faut forcément qu'on ne peut vraiment le faire qu'à partir d'un certain moment et en dehors d'un cadre qui est simplement un cadre scolaire, qui a sa légitimité, son intérêt, mais qu'au bout d'un moment, il faut bien dépasser.
Et vous pensez que l'école permet de dépasser ce cadre, qu'elle pousse les élèves en fin de cycle à prendre leur autonomie, à trouver leur repère en dehors de l'école et dans leur propre démarche? Est-ce que l'école permet?
Quelque part oui, mais pas forcément bien.
Alors, qu'est-ce qui...
Je veux dire, quelque part oui, on s'aperçoit que et quand on regarde ce que deviennent nos étudiants, on leur a appris à se débrouiller, à s'adapter. Et qui fait que, c'est une raison qui fait qu'ils réussissent quelque part à s'intégrer dans des activités de type différent. Peut-être qu'on ne leur a pas assez donné d'outils. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans une période où on leur a donné beaucoup de liberté, ce qui est bien d'avoir beaucoup de liberté, mais pas forcément le capital, les éléments qui font que cette liberté pourrait se développer et s'épanouir au sens nécessaire.
Est-ce que vous pourriez citer les éléments qui seraient nécessaires à cette épanouissement?
Je pense qu'il y a aussi bien tout ce qui concerne les enseignements techniques. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que la part de la mise en œuvre technique dans nos enseignements, à l'heure actuelle, se trouve extrêmement limitée. Elle se trouve beaucoup plus limitée. Je pense que sur le plan de l'expression de la de ce qu'on peut appeler au sens large de la communication, il y a aussi beaucoup à faire. On est trop souvent en présence d'artistes qui disent « Écoutez, j'ai rien à dire, il n'y a qu'à regarder mon travail, il parle par lui-même. » Bon. Et ça, je pense que c'est effectivement trop juste. C'est principalement là. Et aussi, un troisième élément, aussi peut-être, autour des données qui sont les données, on va dire, d'activité professionnelle. Que souvent, le monde professionnel extérieur, bon, ils ne connaissent pas bien, ils découvrent, sans bien savoir comment jouer avec, sans bien forcément avoir la moyen de comprendre.
Et comment serait possible de développer ces lacunes, ces manques par, développer ces activités professionnelles, par exemple
Alors, d'une part, il faudrait développer, je pense qu'il faudrait développer dans les enseignements un certain nombre d'apports, aussi bien théoriques que pratiques, qu'on a eu tendance à mettre de côté.
Pourquoi?
Parce qu'on avait l'impression que, si vous voulez, ce qui était important, ce n'était pas finalement ce qu'on faisait, mais pourquoi on le faisait. Et avec le risque qu'il y avait, on disait qu'on n'est pas affaire à des artistes, mais à des artisans. On voulait bien se distinguer du monde de l'artisanat. Pour être dans le monde de l'art. Le monde de l'art, l'art contemporain, c'est quoi? C'est un art qui n'arrête pas de se poser la question de qu'est-ce que l'art? C'est ça la marque de l'art contemporain. Bon. Alors, ce sur quoi on peut se dire que bien sûr il faut effectivement se poser la question, mais que la question, on y répond, que la question, on y répond en mettant en œuvre les moyens. Bon, et donc il y a cet angle-là qui est cet angle-là à réévaluer. Donc ça peut se faire d'une part en réévaluant un certain nombre de formations à l'intérieur des écoles, et d'autre part en ouvrant davantage les écoles sur l'extérieur. Sur d'autres établissements, soit dans le même pays, d'autres types d'établissements, que ce soit université, que ce soit grandes écoles, que ce soit établissements à vocation plus technique, dans des établissements étrangers, parce que la connaissance de la situation dans les pays étrangers, des règles du jeu, etc., c'est aussi toujours quelque chose qui apporte quelque chose. et puis aussi en rapport avec les milieux de production et de création.
Ça, c'est une opportunité qui est donnée aux élèves en quatrième année avec les...
C'est donné, mais de façon un peu limitée.
Avec les séjours Erasmus et les...
Voilà, l'idée, hein, c'était...
Les stages,
voilà. Voilà, c'est souvent autour de la quatrième année qu'on dit, bon, c'est une année qui est une année importante pour les stages, les séjours à l'étranger. Le problème, c'est qu'elle intervient un peu avant la cinquième année, et alors après, on ne sait plus bien, les gens qui reviennent à l'intérieur de l'école. Et d'une part, il n'y a pas assez d'échanges avec l'extérieur qui sont faits, parce qu'il y a peu de moyens qui sont donnés. Il y a peu de moyens qui sont donnés. Les bourses, par exemple, pour séjour à l'étranger, sont quand même extrêmement réduites. Et je crois dans tous les pays, c'est comme en France, mais je crois que c'est dans beaucoup de pays, les bourses ont tendance à être réduites, donc les étudiants ont tendance à ne pas partir trop loin. Et puis, alors avec effectivement donc, cet autre aspect, hein, je vous disais, qui est donc l'importance de tous ces rapports avec les lieux de production et de création. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en France, les rapports ne sont pas très équilibrés à la différence d'autres pays. En Angleterre, par exemple, les écoles d'art sont véritablement dans des réseaux avec des centres d'art, des lieux d'exposition. Un professeur d'école d'art, c'est un professeur qui expose, c'est un professeur qui publie dans la région dans laquelle est située l'école, se trouvent des galeries, des centres d'art, dans lesquels on peut travailler. En France, le problème, nous sommes dans un système très centralisé. Alors, comme beaucoup de choses se passent à Paris, les professeurs qui sont dans les écoles d'art, qui ne sont pas à Paris, ont l'impression de se trouver un peu dans les écoles d'art comme s'ils étaient à l'étranger. Et les étudiants n'ont pas forcément la possibilité de développer de véritables rapports avec ces structures. Alors bon, on peut espérer que c'est quelque chose qui changera, qu'il faut que la vie culturelle se développe dans toutes les régions, dans tous les domaines. Il y a certains domaines pour lesquels ça se passe très bien. Je ne sais pas, on va prendre l'exemple du théâtre, hein, l'exemple de la musique. Hein, il y a en région des centres dramatiques, des groupes de théâtre, nombre important, et ainsi de suite. Au niveau art contemporain, le nombre de musées, de galeries, de centres d'art en province est quand même assez limité.
Et comment on pourrait développer ces centres d'art? Vu que ça se passe quand même au niveau de la danse, pourquoi est-ce que dans l'art contemporain, c'est plus rare, il y a autant de gens qui s'intéressent à l'art qu'à la danse au théâtre?
C'est plus difficile parce qu'il n'y a pas le même rapport au public. Quelqu'un qui fait de la danse, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait du théâtre, conçoit bien qu'il ne peut pas développer cette activité s'il n'y a pas un public. Un artiste peut toujours travailler seul dans son atelier. Il peut faire une exposition à laquelle il y aura du monde ou il n'y aura personne. Alors je crois que c'est une des raisons qui fait que les arts plastiques ont plus de mal à être vus et à être entendus. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le spectacle vivant. C'est la terminologie qu'on a en français, le spectacle vivant, alors on va dire qu'il regroupe effectivement théâtre, danse, musique, et ainsi de suite. Et puis à côté de ça, on a les arts plastiques, on ne sait jamais trop à quel moment on est dans le musée ou dans l'art contemporain, et qu'est-ce que ça doit faire.
Pour revenir sur ce que vous disiez, que les écoles sont... Enfin, tout est très centralisé, et que si on n'est pas à Paris, on échappe, on en rate beaucoup de choses. Je sais qu'à l'école de Nice, par exemple, il y a donc l'école des Beaux-Arts qui est traînée avec un centre de création et un centre d'exposition. Est-ce que vous pensez qu'un tel système est possible, est-ce que c'est possible d'appliquer un tel système dans d'autres régions, à Rennes par exemple?
Le système de Nice, c'est une des possibilités. Mais ce n'est pas forcément la seule. Moi, je pense que dans toutes les régions, hein, vous prenez de la région Bretagne, il y a malgré tout un certain nombre de centres d'art et un certain nombre de lieux d'exposition. Bon, il faudrait que nos partenaires se prennent conscience du fait que le rapport avec les écoles d'art, que le rapport avec les jeunes artistes des écoles d'art fait partie de leur mission. Il y a quelque temps, on avait invité en Bretagne à une réunion le responsable d'un centre d'art en Belgique. Ce responsable du centre d'art en Belgique organisait des expositions d'étudiants ou danseuses étudiants belges et français tous les ans, parce que ça faisait partie de ses missions. Nos centres d'art en France n'ont pas encore cette conception-là. Je pense que c'est principalement à ce niveau-là, au niveau des mentalités, il faudrait arriver à changer les choses. Parce qu'il n'y a pas une seule solution qui est bonne. La solution de dire on a l'école qui fabriquait les produits qui rentrent dans le centre d'art après, bon, on se rend bien compte que c'est quelque part un peu problématique. Hein, on se trouverait quelque part dans la fabrication de produits pour le centre d'art qui est derrière. C'est important de maintenir la liberté, c'est important de maintenir la diversité, et il faut se dire que les expériences, hein, les échanges peuvent être multiples et variés selon les situations.
Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec le marché global, le fait qu'on demande aux gens d'avoir des connaissances très pointues, parce que les niveaux de qualification s'élèvent de plus en plus, qu'on est de plus en plus exigeant sur le marché du travail, que ce soit dans le domaine de l'art ou là.
Non, je ne mettrai pas ça. Je mettrai ça en rapport avec une évolution, effectivement, en général, de la façon dont les choses se passent dans la société. C'est vrai que, de façon générale, on attend plus aujourd'hui des gens qui soient quelque part spécialisés dans un domaine. Hein, ça, c'est un peu la situation qui est la situation actuelle. Et je pense d'ailleurs, y compris par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure, si on regarde, par exemple, dans le domaine artistique, on s'aperçoit que souvent les gens ont une double formation. Il y a quelque temps, à Rennes, le responsable de l'opéra était quelqu'un qui avait une formation musicale et d'école de commerce, une formation d'école de commerce. Même chose pour le directeur du musée. Il avait une formation de conservateur et une formation d'école de commerce. Alors pour ce qui est strictement artistique, hein, sur un plan strictement artistique, bon, un artiste, on regarde sa création, on regarde sa production. Bon. Donc il faut nuancer. Mais sitôt qu'on n'est pas sur ce domaine-là, spécialement, on voit bien que les choses changent.
Voilà, pour quelqu'un qui va se diriger après sur le domaine du travail, il ne pense pas qu'il aura besoin de données complémentaires qui n'ont pas à voir avec l'art, forcément directement, mais avec des enseignements qu'on apprend en école de commerce.
Oui, mais on peut se dire que, justement, on fait des études à un moment dans un domaine, qu'on peut compléter par des études dans d'autres domaines en fonction de ce qui vous intéresse à ce moment-là. Une école d'art ne peut pas donner une formation dans le domaine de l'art, plus dans tous les domaines qui seraient susceptibles d'intéresser après les étudiants ou les anciens étudiants. Mais par contre, il y a d'autres types d'études, d'autres types d'établissements, hein, qui peuvent faire des propositions, qui peuvent permettre de compléter la formation qu'on a eue dans un domaine par une formation dans un autre domaine.
Donc c'est à l'étudiant de faire son parcours de formation et de choisir quelles écoles lui correspondent.
Voilà, hein, on est à un moment où, on va dire, sauf dans des domaines qui sont des domaines très particuliers, hein, où on va dire il y a des établissements spécialisés qui correspondraient à ça, mais dans la plupart des cas, sur la base de formations qui sont, on va dire, des formations dans des domaines, mais abordées de façon un peu plus générale, ces formations peuvent être complétées par des formations, soit dans ce domaine-là, soit dans d'autres domaines. Parce que, y compris d'ailleurs, le domaine de l'art, les champs de l'art, le domaine des arts plastiques, c'est aussi beaucoup élargi. C'est beaucoup élargi. Donc il faut suivre cette évolution.